This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 69 d'Un épisode et j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio.
Next one.
Une porte qui grince au beau milieu de la nuit, une créature difforme qui se cache dans la penderie ou encore quelques meurtres bien sanglants ça et là. Vous l'aurez sans doute deviné, il est aujourd'hui question d'horreur. Celle qui nous fait sursauter, qui nous provoque des sueurs froides, bref, celle qui nous met la boule au ventre. Mais surtout l'horreur qu'on retrouve sur le petit écran. Depuis quelques années, notamment grâce à une certaine production du tout-puissant Ryan Murphy, les séries d'horreur connaissent un second souffle et se multiplient à un rythme presque terrifiant. Alors parce que c'est bientôt Halloween et qu'il est toujours bon de se foutre la trouille de temps en temps, je me suis entouré d'une petite équipe d'amateurs d'épouvante pour parler frissons, sorcières et tueurs en série dans les séries. Je suis Florian Caisse de Combini, ici avec Émilie Semiramode de Glamour et Vanity Fair. Salut Émilie.
Salut Florian.
Mais aussi Alexandre Buucodabas des Inrecoptibles. Hello Alexandre.
Hello.
Et enfin Delphine Rivet de Combini. Salut Delphine.
Salut.
Nous sommes réunis aujourd'hui dans un épisode et j'arrête pour aborder le cas American Horror Story et l'horreur dans le monde des séries.
Welcome to Outpost 3. The house rules are simple. You may never leave the building due to the danger of radiation contamination and no unauthorized copulation. No exception.
What's happening out there?
It's all gone.
Boring!
Strangely satisfying, isn't it? Dispensing punishment. It's our world now to remold as we see fit.
Nous sommes en 2018 et American Horror Story affiche déjà 8 saisons au compteur, d'abord déstabilisante et parfois carrément flippante avec sa Murder House, l'anthologie d'épouvante signée Ryan Murphy et Brad Falchuk a petit à petit déployé un univers vaste avec une mythologie aussi étendue qu'effrayante. Mais aujourd'hui, est-ce que la série fait toujours son petit effet? Est-ce qu'elle a réussi à se renouveler sans faire de redites et surtout sans perdre de qualité? Émilie, qu'est-ce qu'on en pense?
Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, c'est qu'elles sont, enfin, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, même si je trouve que les saisons sont assez inégales. J'ai décroché au cours de la 5, pour zapper la 8 et revenir à la 7, qui était censée revenir un peu en grande pompe avec l'élection de Donald Trump et une espèce de diatribe contre l'élection de Trump. Et finalement, c'était assez hystérique et je trouvais que les propos manquaient un peu de finesse et c'est passé un peu à côté de son sujet. Et là, la nouvelle saison 8, Apocalypse, a l'air de vouloir s'inscrire dans une sorte de continuité puisqu'elle annonce la fin du monde et qu'on suppose que cette fin du monde est un petit peu la cause de l'état du monde actuel, de la politique actuelle. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner encore parce que c'est un peu trop tôt.
Moi, dans ma tête, c'est Trump qui a appuyé sur les boutons.
Oui,
et qui a fait monter le
un peu, ouais, mais bon, a déclenché une guerre avec Kim Jong-un et ouais. Ils ne sont plus copains en fait, je ne sais pas.
Je trouve ça assez étonnant parce que les deux saisons précédentes étaient vraiment parties sur un mode plus réaliste. Il y avait une critique un peu des images du contemporain, notamment de la télé-réalité. Il y avait une critique de la politique américaine. On envisageait l'élection de Trump comme un bouleversement horrifique. Et là, il se replie une nouvelle fois dans un espèce d'endroit hors du monde, hors du temps. Il rejoue tout le temps les mêmes motifs, les mêmes personnages. Bon, pour le moment, je trouve ça plaisant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le gros renouvellement. Et je trouve qu'il y a quand même une forme d'essoufflement.
Oui, est-ce qu'il commence pas un petit peu à se recycler? C'est la question qu'on peut se poser. Après, pour avoir vu les deux premiers d'Apocalypse à l'heure où on enregistre le podcast, je trouve qu'il met un peu moins d'horreur et de gore pour l'instant. Alors qu'avant, c'était vraiment sa valeur choc d'entrée de jeu. Là, pour l'instant, en fait, on a presque l'impression que c'est soft et il y a de l'humour, quoi. Qu'un truc qui était pas complètement absent de la série en général, mais qui était distribué avec beaucoup plus de parcimonie. Et là, il y a une vraie. On parle souvent, quand on parle de Ryan Murphy et de ses séries en général, d'humour camp. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et c'est difficile à décrire et ça n'a pas de traduction en français, donc ne me la demandez pas. Voilà.
Et la saison 3, Coven était justement assez portée
ouais.
Sur l'humour, en fait.
Un peu, ouais.
Et là, comme c'est peut-être un crossover, peut-être que justement, c'est l'occasion pour lui de revenir sur ça.
Mais non, mais en plus, le fait d'avoir cette actrice de dynastie qui est...
C'est John Collins.
Hein,
oui.
C'est incroyable.
Qui reste inchangée depuis les années 80.
Elle est habillée pareil. Elle a le même brushing et tout. Mais ça, déjà, c'est camp, quoi, comme référence. C'est très... Enfin, voilà. Donc... Moi, je suis à la limite plutôt agréablement surprise de cette saison-là, parce que, alors oui, on a l'impression qu'il se réfugie un petit peu dans le recyclage de ses propres trucs, il s'est auto-référencé et tout, mais finalement, les autres saisons aussi, elles référençaient beaucoup les précédentes, et il y avait des clins d'œil comme ça des autres saisons, donc why not?
Puis ce qui est toujours très très drôle, je trouve, c'est la manière dont ils nivellent totalement tous les enjeux dramatiques. C'est qu'on est quand même face à la fin de l'humanité, plus ou moins. Ils sont 13 personnes dans un bunker et tout d'un coup, le brushing d'une influenceuse a autant d'importance que le fait d'avoir peut-être mangé un des membres de l'équipe au dîner. Donc c'est complètement foutraque, c'est complètement dingue et c'est quand même très drôle, en vrai.
Et depuis sa création, American Horror Story elle est vendue comme une anthologie. Ce qui veut dire que chaque saison, il y a une nouvelle intrigue et qui est contenue, donc qui ne se développe pas sur les autres saisons. Mais parfois, donc, du coup, là, cette saison, c'est un crossover. Des fois, il y a des petits easter eggs qu'on peut dénicher. Ça laisse quand même croire que American Horror Story, c'est une œuvre à suivre plutôt de façon linéaire, donc comme une série plutôt normale. En réalité, est-ce qu'on ne serait pas face à une fausse anthologie au final ?
Je sais pas si c'est une fausse anthologie. J'ai l'impression que ça s'inscrit. Enfin, à partir du moment où Murphy a annoncé qu'il y avait un crossover dans cette saison 8 entre la 3 et la 1, donc ça s'inscrit un peu dans le même principe que Black Mirror, qui annonçait que tous ces épisodes appartenaient à un seul et même univers. Et là, je pense que c'est à peu près, c'est normal. Ça donne une cohérence à l'ensemble, même si le casting reste plus ou moins le même d'une saison à l'autre, et même si les personnages changent. C'est important quand même d'inscrire, je pense, chaque saison dans un univers qui est cohérent avec lui-même. Et ça participe, je pense, à la démarche de base de Ryan Murphy, qui est, enfin, selon moi, de déconstruire le mythe américain saison après saison. Bon, là, je pense qu'il le fait un peu de moins en moins, mais bon, voilà, je pense que c'est le but annoncé de cette série en général. Donc, c'est normal qu'il y ait un tout qui tienne un peu ces saisons-là.
Mais sinon les saisons entre elles, enfin, on peut les regarder dans n'importe quel ordre.
Oui,
enfin,
voilà,
toi,
oui, voilà.
Moi aussi, je les ai vues dans un ordre complètement différent.
Non, je les ai regardées dans l'ordre en sautant la 6.
Ah, d'accord, ok. Ah oui, alors, parce que moi, je suis revenue après, j'ai fini la 1, après, j'ai regardé Cult, après, j'ai regardé Hôtel. Enfin, on peut la regarder dans des sens assez différents.
Oui,
je pense qu'il faut limite.
Ouais.
Il y a une timeline, hein, il en a parlé de ça. Donc, il y a des liens, il y a des passerelles entre les saisons. Donc, à la limite, bon, si ça vous intéresse, vous faites un petit dessin, un petit schéma avec la timeline sur quand s'est passé tel truc avec tel personnage et tout. Moi, ça m'intéresse pas des masses, donc voilà, parce que sinon c'est juste un témoignage des efforts qu'il met à essayer de tout connecter. Moi, je m'en fous de ça.
Je trouve que la plus belle continuité de la série, elle est dans le fait de retrouver les mêmes visages, les mêmes acteurs qui vieillissent, qui généralement reprennent un peu tout le temps des mêmes rôles, comme s'ils solidifiaient comme ça un personnage au cours du temps. Et je trouve ça assez touchant au final.
Je tiens à faire juste un clin d'œil dans la dernière saison où il y a Kathy Bates qui est plus butch que jamais et j'adore, je la trouve géniale.
J'ai prise pour Léa Delaria au premier coup d'œil.
Mais oui, c'est vrai. Ah oui, celle qui joue Boo dans Orange is the New Black, ouais, complètement.
Et si Ryan Murphy il a cartonné lui au niveau de l'horreur, c'est pas le seul parce qu'il y en avait d'autres avant lui. On pense à Jason Blum ou encore Stephen King qui ont réussi à se frayer un chemin dans le monde des séries. Le premier avec Ghoul, donc un huis clos oppressant dans une prison en Inde sur Netflix, et l'autre avec Castle Rock sur une petite bourgade du Maine, forcément vu que c'est Stephen King, où des événements inexplicables commencent à se manifester. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on est dans un même registre horrifique? Est-ce qu'ils ont chacun leur terrain de jeu assez différent? Alexandre,
Stephen King, il a vraiment une constellation horrifique hyper précise, qui s'est construite sur une œuvre au moins pendant 40 ans, avec des personnages récurrents, des lieux communs, des motifs, une Amérique hantée. Et en série, c'est vrai que c'est ça a des fortunes très très diverses, les adaptations. Là, Castle Rock, sur le papier, c'était très prometteur. Puis l'idée de faire une histoire originale en assemblant comme ça, comme des petits Lego, toutes les obsessions de Stephen King. En vrai, c'était quand même très très chiant. Enfin,
oui.
C'est-à-dire qu'on décroche totalement. Le personnage principal n'a aucun charisme. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a pas pris. Ça manque de.
Mais je trouve qu'il. Enfin, Stephen King, son univers aussi repose beaucoup sur l'atmosphère qu'il donne. Là, on est dans une petite ville en plus. L'atmosphère dans la série, elle est là, quoi. Je trouve. mais parce que la ville est, c'est un gros cliché ce que je vais dire, mais la ville c'est le personnage.
Oui, c'est
mais c'est vrai, et en réalité il y a des personnages un petit peu étranges qui gravitent autour de ça, mais est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui leur arrive? Je sais pas. Le méchant qui est joué par Skarsgård, je comprends pas l'intérêt de cet acteur. Je veux dire, déjà dans Hemlock Grove je le trouvais ridicule. Là, je juste, il fait la gueule, en fait, quoi.
Il a exactement la même tête pendant tous les épisodes, mais avec un sourire de psychopathe.
Donc, je sais pas. Il y a la performance, c'est dans la constance.
Ah, d'accord. Ben, alors, oui. Alors, c'est un très grand acteur, très constant. Voilà. De l'importance d'être constant, justement. Et, non, mais, enfin, voilà, et je trouve ça dommage, quoi, parce que mettre autant d'efforts à créer une atmosphère, à rassembler comme ça, comme un puzzle, des trucs dans le générique, t'as des références aux œuvres de King dans la série en elle-même et tout, et de se bananer, en fait, sur le côté horreur, en fait, c'est un peu dommage, quoi.
C'est plus de l'horreur psychologique, on va dire, que de l'horreur pure. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de moment terrifiant, il n'y a pas de terreur, en tout cas, dans cette série. C'est vrai qu'elle est vraiment purement atmosphérique. Après, j'ai envie de lui accorder un petit peu le bénéfice du doute, puisqu'a priori, c'est une anthologie. Donc, faut voir aussi derrière, en saison 2 et 3, si elles arrivent, si elles sont commandées, ce que ça va donner, et surtout, quelle est la ligne directrice de la série. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, l'obsession de King, c'est vraiment de raconter le déclin de l'Amérique, ses obsessions internes. Et là, ça transparaît pas vraiment, mais peut-être que on va avoir une première pièce du puzzle qui va se révéler. Enfin, moi, sur Murder House, la première saison, ça me sautait pas aux yeux. Hein, le propos de Ryan Murphy, c'est venu avec les saisons 2 et 3. Donc, je pense que bon, si on est un petit peu patient, on peut peut-être voir quelque chose émerger de Castle Rock.
En conclusion, on attend la saison 2 pour juger.
Je sais pas si je la regarderai, hein, du coup. C'est super chiant.
Non, mais il y a un très beau casting.
Mélanie
Linsky,
mais
Scott
Glenn. Mais je suis désolée pour eux, quoi.
C'est des acteurs quand même merveilleux à voir évoluer sur l'écran.
Bah oui.
Quand même. André Holland aussi.
Oui.
Flûte.
You have a dark mind.
You have no idea.
Everyone has secrets. Everyone tells lies. And everyone is fair game.
On a mentionné plus tôt Murder House, la première saison d'American Horror Story qui se déroulait dans une grande bâtisse pas très très rassurante. Ce qui nous amène tout logiquement à parler de The Haunting of Hill House, la nouvelle série d'horreur de Netflix après l'échec de Hemlock Grove, qui s'intéresse à une fratrie forcée de retourner dans la maison où ils ont grandi afin d'élucider le suicide inexpliqué de leur petite sœur. Le concept de la maison hantée, on l'a déjà vu un peu partout, on le connaît, mais est-ce qu'ici il est bien exploité? Et pourquoi cette fascination avec l'idée d'une maison habitée par du surnaturel? Delphine, qu'est-ce qu'on en pense?
Alors, déjà, la maison, pourquoi ça terrifie? Parce que c'est chez soi, quoi. C'est le dernier endroit où t'es censé être en sécurité. Enfin, le premier endroit plutôt où t'es censé être en sécurité, c'est chez toi. Donc évidemment, quand tu te retrouves avec des fantômes dans les murs et tout, bon, c'est pas super drôle. Recliché, la maison est un personnage à part entière dans les séries et les films d'horreur. Et d'ailleurs, c'est toujours des maisons incroyables. Hein. C'est jamais le petit pavillon de banlieue. Tout voilà, c'est des baraques incroyables. Bon, qui ont une histoire. Voilà, je crois que d'ailleurs dans la série, ils en parlent comme d'un corps humain, c'est-à-dire qu'elle a des os, une colonne vertébrale. Elle a voilà. Bon, ouais. The Haunting of Hill House, c'est un truc qui se cherche un peu entre le drame familial et comment on vit le deuil au sein d'une famille. Donc c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans des tas de séries et voilà, et qui le fait super bien, j'ai trouvé. Et en même temps, voilà, elle a un peu le cul entre deux chaises, quoi, entre le deuil et comment le gérer d'une certaine façon et en même temps être hanté littéralement donc par cette maison et par les souvenirs auxquels elle renvoie. Et en fait, je trouve que les personnages y mettent bien cet épisode avant de réagir normalement à j'ai vu un fantôme. C'est-à-dire qu'ils sont là, ouais, non, mais c'est le deuil, c'est dur. Oui, mais enfin là tu viens de voir quelqu'un qui vient de te sauter dessus, donc non, ça n'est pas normal. Et en fait, ils ont tous un peu leur psychose et leur névrose et tout ça, et donc du coup ils sont là, non mais faut, enfin c'est parce que je suis pas bien en ce moment. Non, mais alors même au plus mal de ta vie, si tu vois ça, enfin consulte quoi. Donc voilà, c'est donc.
Oui, mais c'est le propos de la série justement. C'est
ouais,
la,
ouais, c'est mais de, je trouve qu'ils mettent trop longtemps avant d'avoir une réaction.
Oui, mais le problème de la série, c'est de revisiter le mythe de la maison hantée, ouais, en posant la question, est-ce que c'est une maison réellement hantée ou est-ce que c'est juste des projections d'esprit? Est-ce qu'ils sont pas tous cinglés? Est-ce qu'ils sont pas
moi,
tous
malades? Moi, je savais dès le début, c'était des vrais fantômes. Attends, j'y croyais parfait, à donf.
C'est ce que tu y crois, mais ouais, si tu n'y crois pas, peut-être que c'est juste des sujets
psychiatriques. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire, ça les suit, ça les
voilà, ouais, c'est quelque ça chose les ronge. C'est qui n'est pas forcément propre à la maison. Ouais, c'est quelque chose qui sort de la maison et dans leur vie après. C'est voilà, c'est une série qui tourne autour d'un drame. Une espèce de genèse dans l'enfance de ces enfants et qui perdure 20 ans plus tard. Donc, moi, ce que j'aime bien, justement, dans cette série, c'est qu'elle pose cette question-là. Est-ce que cette maison est véritablement hantée ou est-ce que c'est pas juste une famille de personnes atteintes de troubles mentaux graves qui fait que l'un ou l'autre, on va pas dire qui, va se suicider ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une manière de détourner le mythe fantastique pour aller vers le drame intime.
Pour en revenir à American Horror Story, on rappellera qu'elle a réinventé en matière de séries horrifiques. On peut penser au Conte de la Crypte, diffusé sur HBO dans les 80s, ou encore Masters of Horror, qui aura su happer les fans de gore avec ses quelques épisodes. Ça a été un peu annulé trop tôt, selon moi. Mmh. Mais donc, est-ce qu'on reste dans une optique du « c'était mieux avant » ou on se montre plutôt optimiste quant à la série d'horreur et son avenir ?
Tu peux même remonter encore plus loin. Tu peux remonter jusqu'à la quatrième dimension.
C'est vrai,
de Rod Serling,
c'est vrai.
Oui, en plus.
Avec,
ouais.
Avec le mec de Get Out,
Jordan Peele, tout à fait, qui faisait dans l'horreur psychologique aussi plus que dans l'horreur classique. Je ne sais pas si on peut dire c'était mieux avant la série d'horreur par rapport à aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les séries d'horreur, c'est qu'elles parlent de la société dans laquelle elles s'inscrivent à l'instant présent où elles sont faites, où elles sont créées, et elles parlent des névroses, des cauchemars de l'époque. Donc, à chaque fois, je trouve que c'est intéressant de revenir sur les vieilles séries d'horreur pour voir où on en était, où on en est aujourd'hui, si ça a empiré ou pas, si les prémices comme ça qui étaient anticipées se sont réalisées ou pas, les cauchemars se sont réalisés ou pas. Et finalement, je sais, oui, je suis pas certaine de m'inscrire dans cette tradition de c'était mieux avant ou pas. Je trouve que les séries d'horreur d'aujourd'hui, pour la plupart, parlent justement de notre monde contemporain et de ses dérives et du mur dans lequel on fonce. Et je trouve ça justement très intéressant.
Effectivement, ce qui est hyper intéressant, comme tu dis, c'est le sous-texte de ces séries. Par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est les récits de base. Parce qu'en fait, finalement, dans l'horreur, c'est à peu près, il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine de canevas horrifiques de base qui sont les histoires que se racontent les enfants avant de dormir. Ça va être le monstre dans le placard, ça va être le tueur en série. Enfin, il n'y a pas la maison hantée, il n'y a pas mille choses finalement. Oui. Ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'en fait l'époque à chaque fois et de quelle manière ces récits-là deviennent le miroir déformant et un peu flippant d'une époque.
Donc récemment, on a eu droit quand même à des émules d'American Horror Story, comme par exemple Lore, Channel Zero et maintenant Into the Dark, qui adoptera le format donc, d'une intrigue par épisode façon Black Mirror. La question se pose quand même, est-ce que la série d'épouvante est vouée à perpétuer le format anthologique ou est-ce qu'elle peut exister en dehors de ce format-là ?
Alors, là pour le coup, tu vois, quand Émilie, tu mentionnais justement les vieilles séries, en fait, c'était déjà des anthologies à l'époque, il n'y avait pas vraiment de séries horrifiques, feuilletonnantes, tu vois. Donc, c'est pas anodin si aujourd'hui celles qui réussissent ou celles qui sont les plus inventives, Channel Zero notamment, American Horror Story et tout ça, le fait qu'elles sont, que ce soit des anthologies, c'est parce que ben c'est un format finalement qui va très bien parce que on aura l'occasion d'en parler après des slashers et tout, mais c'est très difficile de maintenir la surprise, la tension sur trois saisons. Enfin, c'est de la folie de se lancer dans un truc pareil. Donc effectivement, et puis faut réinjecter quelque chose à chaque fois. Donc tu changes de saison, tu changes de thématique, tu changes d'histoire et tout. Channel Zero le fait vraiment très très bien. En exploitant en plus des légendes urbaines qui naissent comme ça sur Internet, les creepypastas, qui est une source intarissable de trucs flippants et d'histoires conspirationnistes et de, enfin voilà, donc c'est super, c'est une super inspiration. Lore, c'est pareil parce que lore, ça vient de folklore. Donc c'est pareil. Enfin, moi, je le connaissais en plus parce que c'est un podcast à la base qui est super intéressant. Et ils en ont fait une petite série très, très confidentielle pour le coup, avec des animations et aussi du live, enfin avec des acteurs et tout
aussi,
ça.
Pas mal d'images d'archives aussi.
Ouais, ouais. Et qui est pas mal aussi parce qu'ils jouent aussi sur... voilà, sur un côté historique, histoire vraie, machin. Donc, c'est assez bien foutu. Donc, enfin, moi, pour moi, je trouve que l'anthologie, c'est le meilleur des formats possibles pour ce genre-là.
On va dire que c'est compliqué de faire du feuilletonnant avec la série horrifique, comme tu le disais, parce qu'il faut se renouveler, qu'il faut tenir sur la durée. On le voit bien avec The Walking Dead qui s'enlise depuis quelques saisons déjà. Et puis l'avantage aussi de l'anthologie, il est en dehors des aspects créatifs purement, c'est un aspect aussi commercial, marketing. Une anthologie, t'as pas besoin d'avoir vu, quand c'est par épisode en tout cas, t'as pas besoin d'avoir vu l'épisode précédent pour accrocher ton audience. Et donc c'est plus facile de toujours ramener une audience nouvelle ou de raccrocher des spectateurs pour voir la nouvelle saison ou le nouvel épisode qui sort.
C'est vrai, ouais. Et si l'anthologie cartonne, il y a un autre genre horrifique qui a réussi à s'incruster dans le monde des séries, c'est le slasher. Donc, le slasher, on le connaît, c'est souvent une bande d'ados, colonie de vacances ou un truc comme ça, qui se font trucider par un serial killer. Il y a eu Harper's Island en 2009, puis après il y a eu l'adaptation de Scream en série. Et slasher aussi côté Canada, et même la France a essayé avec Le Chalet sur France 2.
J'ai pas vu ça.
Qui s'est un peu planté.
Mais le titre fait tellement envie.
Donc, produire un slasher au format série, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on arrive à bien le faire? Alexandre, qu'est-ce que t'en penses?
Dans l'idée, ça peut paraître extrêmement logique, et je crois que c'est Brad Falchuk, le co-créateur de American Horror Story, qui disait que le slasher était la forme parfaite pour une série. Si on mettait un meurtre à chaque fin d'épisode, qu'on faisait grandir le suspense et qu'on révélait le meurtrier uniquement à la fin. Et je pense que dilater une histoire de slasher sur 10 épisodes, pour que ça marche, il faut aussi accorder un peu de l'intérêt au monde qui l'entoure. Tu parlais de teen movie. Moi, je trouve la première saison de Scream assez réussie parce qu'elle décrit aussi le rapport d'une génération teen aux images, aux images virales, avec du chantage par Internet. Et je trouve que finalement, ça marche bien dans ce cas-là. Après, s'il faut juste tuer un personnage par épisode... et regarder ça pendant 10 heures, effectivement, il y a un moment donné où ça tourne un petit peu en boucle.
Ouais. Mais c'est surtout l'assurance. Enfin, quand tu fais une série slasher, que t'as un nombre limité, on va dire, de personnages, tu mets un compte à rebours à ta série, quoi, sur ta série. Donc, toi, tu fais durer le truc jusqu'au bout. Enfin, voilà, je veux dire, ça peut pas être infini. À un moment, faut s'arrêter. Voilà. Et d'ailleurs, celle que t'as mentionnée, ça n'a pas vraiment marqué l'histoire des séries. Donc, faut se poser des questions, quoi.
Ça n'a peut-être pas été bien fait jusque-là. Ouais.
Ben ouais.
Moi, personnellement, je suis pas convaincue par le format sériel pour les slashers. Je trouve que ça marche beaucoup mieux au cinéma. Comme tu disais, Brad Falchuk disait que pour lui, c'est un mort par épisode, enfin à la fin de chaque épisode. Et du coup, pour moi, ça tue le suspense parce que tu attends juste ton mort de l'épisode.
C'est une formule mathématique, quoi,
Et bon, je trouve que c'est en plus un genre ludique, avec des gros guillemets, le slasher, qui passe mieux en film qu'en série. Je trouve qu'en sur 1h30 ou 2h, c'est beaucoup plus efficace qu'effectivement étendu sur 8 ou 10 heures.
Oui, c'est un défouloir, il faut que ce soit condensé dans un espace bien, de temps bien déterminé. Oh, je suis assez d'accord avec toi. We can change our lives. What is wrong with you? We help the sinners release their hatred. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Blessed be America, a nation reborn. On a mentionné le remake de Scream juste avant, et celui-ci est symptomatique d'une autre tendance, c'est l'adaptation de films d'horreur en série. On peut penser à L'Exorciste qui a été récemment annulé, ou encore The Purge qui a été lancé il y a quelques semaines. Même Freddy Krueger a eu droit à sa série, ouais. Elles sont bancales, trop loin ou au contraire trop proches du long-métrage original. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir rebooter du coup ces succès du box-office sur le petit écran? Ou est-ce que ça peut contribuer à vraiment forger une mythologie bien poussée?
Oui, non, je crois que L'Exorciste en plus était pas raté. Moi, j'ai vu que quelques épisodes, j'avais trouvé que c'était plutôt bien. Puis, enfin, faut y aller quand même, quoi.
C'est l'avantage de faire découvrir une œuvre classique à des nouvelles générations aussi, en se disant tiens, l'original, c'était quoi.
S'attaquer à l'œuvre de, enfin voilà, au chef-d'œuvre de William Friedkin, enfin faut y aller, quoi. Et The Purge. J'avais pas vu les films, mais bon, le concept il est assez facile à saisir, hein, donc je savais de quoi ça parlait. J'ai vu qu'un seul épisode à ce jour, et je comprends pas. Enfin, la tension monte parce que c'est le compte à rebours avant la fameuse purge. Ils disent purge en français aussi, ou parce que c'est lait en fait.
Même temps que c'est la purge. Okay. Ouais.
La purge. Ok, c'est lait, mais on va dire ça. donc ils attendent la purge, donc cette nuit d'anarchie totale où tu peux trucider des gens. Donc pour l'instant, je sais on m'a expliqué qu'il y avait quand même un sous-texte politique dans la série, enfin dans les films et tout ça. C'est pas encore hyper évident au bout d'un épisode de la série, et c'est pas flippant non plus.
Alors au bout de deux voire trois épisodes, c'est toujours pas du tout évident.
Voilà.
Donc, le sous-texte politique des films, de toute manière, il est là dans l'idée, mais il est vraiment asséné à la truelle. C'est quand même pas la franchise la plus fine du monde.
Okay.
C'est plutôt un prétexte, effectivement. Là dans la série, à la limite, le seul intérêt aurait été justement de développer un petit peu plus, de fouiller un petit peu plus ce monde-là, de voir un peu cette société, enfin comment elle avait basculé vers une espèce de société complètement folle, quoi, qui autorise des nuits de meurtre. Et là, finalement, on fait juste étirer, enfin, on ne fait qu'étirer le film sur 10 fois plus de temps. Donc
ça aurait peut-être été plus intéressant de faire le préquel des films.
Qui est sorti en film d'ailleurs. Les origines. Mais effectivement, oui, ça aurait été 10 fois plus intéressant.
Je pense que le souci, et on peut être d'accord sur ça, c'est le côté psychologie des personnages qui, en série, c'était l'occasion de le creuser. Et ça restera en surface, et ça veut rester juste dans le divertissement, la tuerie qui s'enchaîne à chaque épisode et tout ça.
Bah, c'est le souci quand on fait un truc, quand on veut faire une série ou un film, une œuvre défouloir comme ça, c'est quand tu restes qu'en surface et que tu fais que du défouloir et que tu oublies de développer des personnages. Et moi, le but du truc, c'est que tu me fasses connaître des personnages et que j'ai pas envie que tu les tues, quoi. Là, j'ai envie qu'ils meurent tous dans The Purge. J'ai envie qu'ils crèvent tous, voilà.
Ça va pas tarder.
Mais oui.
Et aux antipodes de ces séries qui sont purement horrifiques, dont le but principal est de nous faire peur, il y a celles qui veulent aussi nous faire rire. Donc la comédie d'horreur, elle existe depuis bien des années au cinéma et elle s'exporte petit à petit dans le monde des séries. Pour en citer quelques-unes, il y a eu Ash vs Evil Dead, Scream Queens de Ryan Murphy encore, Stan Against Evil ou aussi Santa Clarita Diet quand même sur Netflix. Est-ce que c'est un mélange qui fonctionne, qu'on voudrait voir davantage dans les séries, Alexandre ?
Alors, ça peut fonctionner de manière... Moi, j'ai un petit faible pour Ash vs Evil Dead, mais c'est le... Pareil, c'est que ça ramène un peu à des madeleines d'enfance, ça ramène aux films de Sam Raimi ou à certains films de Peter Jackson, où c'était vraiment, je pense à Brain Dead, où ça dégoulinait des hémoglobines et où vraiment c'est du too much en permanence. Après, ça marche sur des séries avec des épisodes de 20 minutes et... Là, la saison 3 de Ash vs Evil Dead, ça commence un petit peu à se répéter. Scream Queens, par exemple, pareil, au bout de 2 saisons, ils ont annulé parce qu'il y a un moment où ça tient pas sur la durée, je trouve.
Bah, oui, parce qu'en fait, elle est face aux mêmes problématiques que la série d'horreur où tu ris pas. C'était le cas avec Scream Queens, c'est-à-dire concept très fort. C'était aussi un slasher. Donc et la première saison, moi j'avais bien aimé, quoi. Elle était drôle et tout, mais la deuxième, ça devenait tellement répétitif, c'était ridicule. Et franchement, moi en plus, la comédie d'horreur, pour le coup, c'est vraiment un genre que j'adore. Parce que d'un côté, j'adore me faire peur, mais il y a un moment aussi où c'est quand même hyper ridicule, quand tu regardes un film d'horreur. Donc c'est bien de pouvoir rigoler aussi du côté ridicule, extravagant de l'horreur en tant que genre. Et pour ça, la comédie d'horreur, c'est... On parle encore de défouloir, mais c'est vraiment ça. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir... De la même façon que, par exemple, les comédies de... J'adore la SF, et les comédies SF me font vraiment... Si elles sont bien faites, me font mourir de rire. Donc, je pense que c'est un bon mélange des genres, pour moi.
Et donc, Alien, Esprit Vengeur, Tueur en série, au final, toutes ces séries-là, on a l'impression d'avoir fait le tour des thèmes d'épouvante. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le cas ? Qu'est-ce qui peut encore faire peur de nos jours, au final ? Émilie ?
Je ne sais pas.
Donald Trump,
oui. Le monde actuel, qu'est-ce qui peut faire encore peur de nos jours? L'incapacité des chaînes françaises à produire des vraies séries d'horreur. Ça fait peur. C'est un truc qui fait vraiment défaut, je trouve, dans le paysage français. Il y a eu une tentative récente avec Le Chalet, mais qui n'était vraiment pas concluante du tout. Alors que c'est un genre auquel on s'intéresse au cinéma, qu'on pratique au cinéma, plutôt pas trop mal d'ailleurs.
C'est un genre qui nécessite très très peu de budget, en fait.
Oui,
c'est pas
en
une
plus,
question de...
En plus.
On peut faire de l'horreur en found footage, on peut faire des
Exactement,
choses...
c'est pas quelque chose qui va coûter un budget fou, mais là, pour le coup, pour la question française, c'est le manque d'audace des diffuseurs, clairement, et le manque de confiance au public aussi, ouais, en se disant que ça va, on va pas adhérer, et pourtant il faut y aller, quoi. Faut se jeter.
Ouais, on est encore dans une configuration avec la télévision française où on se dit non, on va pas essayer ça parce que c'est clivant. Donc du coup, on fait des trucs bien fadasses qui vont plaire à tout le monde. Enfin, à moitié plaire, mais au moins il y aura du monde devant la télé. Donc effectivement, l'horreur, bah oui, c'est clivant, c'est un genre. Donc, mais après, il y avait Les Revenants aussi, qui étaient de l'horreur, quoi. Ouais.
C'est... Oui, bon, plus métaphysique. Que...
Mais ça allait parce que, enfin, du coup, je pense que comme c'était pas, c'était aussi un super super drama en fait. Hein, je pense que les critiques s'en sont emparées, les critiques qui n'aiment pas forcément le genre, les spectateurs qui ne regardent pas de séries d'horreur ont regardé Les Revenants parce que c'était un merveilleux drama, machin. Donc du coup, ça plaisait aussi dans ce sens-là. C'était un peu moins... Mais c'est vrai qu'ouais, on n'en fait pas. Hein.
Pas trop, non.
La tristesse.
Bon, allez, petite dernière question pour le kiff. La série d'horreur de vos rêves, elle parlerait de quoi ? Pour ma part, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film The Faculty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Josh Hartnett. Et j'aimerais bien, pour le coup, avec toute la tendance des reboots, une petite version série. Je pense que ça peut se tenter avec un bon casting, un bon réal, un bon showrunner. Ça pourrait faire l'affaire.
Hmm. Moi, la mienne, ce serait une série d'horreur qui serait pré-apocalyptique, parce qu'à chaque fois, on fait des séries post-apocalyptiques. Donc, j'aimerais bien avoir l'avant, juste avant la fin du monde. Et qu'on fasse quelque chose de très actuel, qui parle de comment on va droit dans le mur en ce moment, comment on est en train de foutre en l'air avec le climat, l'écologie, tout ça, qui sera ramené sur quelques dizaines d'années et qui fasse bien flipper tout le monde. Ça serait vraiment la série d'horreur de mes cauchemars.
Moi, j'aimerais bien voir une série d'horreur en réalité virtuelle ou en interactif, parce que,
Jesus.
Par exemple, j'ai été joueur un peu de jeux vidéo dans mon adolescence, et il y avait même plus dernièrement, il y avait une série de jeux vidéo qui s'appelait Amnesia sur Mac, et je crois que j'ai rarement autant flippé qu'en étant dans la peau du personnage qui avance avec une lampe torche, des trucs me sautent dessus. Donc, je me dis que bon, le cinéma interactif se développe un petit peu. À quand la série d'horreur interactive ?
Mais en fait, tu parles d'un escape game. Il y a des escape games comme ça à Paris, genre le manoir ou je sais pas quoi, qui sont des trucs un peu flippants où tu peux vivre. Tu vis dans un scénario d'horreur et tout. Non, mais c'est sûr que c'est un peu le truc flippant ultime, quoi. C'est que
T'as même Hostel, je crois, en escape game.
C'est sale. Moi, en fait, je crois que la série. En fait, elle existe déjà, quoi. C'est The Handmaid's Tale, quoi. C'est tout ce qui touche au droit des femmes et tout ça. Et parce que là, bon, on est en plein dedans. Hein. Je trouve que, en fait, pour une femme d'aujourd'hui, The Handmaid's Tale, c'est une vraie série d'horreur, quoi. Parce que ça a un bon goût de vrai. Ça fait bien flipper, quoi.
Ce fut un plaisir d'animer cet épisode 100% horreur d'un épisode des Jarrettes, aux côtés d'Emily Semiramoth de Glamour et Vanity Fair, Alexandre Buyuko d'Abbas des Inrecultibles et Delphine Rivet de Convini. La semaine prochaine, je passe le micro à Pierre Langlais qui abordera la thématique du deuil dans les séries. En attendant, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode des Jarrettes et sur la page de la série.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one.